Salut Hugues.
Salut Marc.
Ravi de te retrouver, on est face à ton beau jardin, il fait beau, on est à 25 km au nord de Lyon, dans une campagne riante, rieuse. Là pour le coup, on parlait du manque de haies et de bocages, ben là c'est pas ça qui manque, hein. Il y a du vert partout, ton jardin est une sorte de jungle. Donc très heureux d'être là. Hugues, on va parler de ce qu'on peut faire cette fois-ci. Tu nous as bien démoralisé là pendant les premiers épisodes où on parlait de l'effondrement de la biodive et de ses causes. Mais là, on va voir ce qu'on peut faire tout un chacun. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il est tout simplement encore temps? Pourquoi essayer de faire quelque chose? Est-ce que c'est pas mort cette affaire? Est-ce que c'est pas
Alors, c'est une
plié?
vraie question, ça. Est-ce qu'on a encore la possibilité de faire quelque chose? Mais est-ce qu'on doit vraiment se la poser si on considère qu'il y a des enfants qui sont sur Terre et qui n'ont pas demandé à vivre dans un monde aussi détérioré? Nous, on vit sur ce que les anciens ont fait et là, on est en train de fabriquer le monde de nos enfants. Cela dit, quand on regarde ce que nous racontent les sociologues, les ethnologues, on se rend compte que les sociétés humaines ont une capacité à changer ultra rapidement, évidemment souvent un petit peu tard, hein, quand on est au pied du mur ou au pied de la falaise en fonction de l'image qu'on choisit, mais une capacité de changement assez radicale. Et donc ça reste un élément tout à fait moteur et motivant pour entraîner le point de bascule, la réunion du rapport de force pour qu'on soit suffisamment nombreux pour influer une autre direction de la société. Et à ça s'ajoute un autre point extrêmement important qui est relatif aux qualités qu'a la nature, sa capacité de plasticité, d'adaptation au travers des gènes, de la diversité des organismes et d'écosystèmes, et c'est sa capacité de régénérescence des milieux. Pour peu qu'on lui laisse un peu d'espace et de temps, en quelques années, en une dizaine d'années, ce qui est finalement assez court, hein, même à l'échelle d'une vie humaine, on peut radicalement changer le faciès d'un espace. Et c'est là où on peut se rendre compte que dans un jardin, au pied de son immeuble, on peut tous agir facilement, efficacement, rapidement et pour presque rien.
J'ai pas voulu t'interrompre, mais ça me fait penser à cette phrase, je crois qu'elle est amérindienne. On n'hérite pas le monde de nos parents, on l'emprunte à nos enfants.
Oui, alors il y a pas mal d'auteurs, comme toutes ces grandes phrases. Il y a des chefs indiens à qui ça a été attribué. Il y a Antoine de Saint-Exupéry aussi, à qui on l'a attribué. Donc j'avoue que je ne sais pas bien qui l'a écrite en premier, si vraiment il n'y a qu'une personne. En tout cas, c'est tout à fait la réalité, hein. On fabrique le monde de nos enfants et on l'a hérité de nos anciens.
Très bien, Hugues. Donc on comprend qu'on peut faire quelque chose, mais concrètement, on fait quoi? On fait comment?
Alors d'abord, c'est urgent. Donc c'est maintenant qu'il faut mettre en action l'ensemble de la société. Parce que si on ne change pas nos habitudes de production, de transport, de gaspillage, hein, de gabegie énergétique ou de production alimentaire, les choses ne pourront pas changer. Donc ça veut dire s'attaquer profondément à l'agriculture, et encore une fois, pas aux agriculteurs, mais accompagner financièrement au travers des impôts, au travers des entreprises qui doivent mettre la main à la poche aussi pour changer profondément le système agricole de production, changer les polluants qu'on a qui sont délivrés par les industries ou par les habitats, changer les modalités de transport, bref, limiter la rémanence et l'omniprésence de tous ces produits extrêmement toxiques qui, ensemble, produisent des effets cocktails encore plus rémanents et encore plus dangereux pour l'environnement. Donc, on a plein de choses à faire, à portée de main, tout à chacun, au jour le jour, dans tous les espaces, mais ça passe aussi par le changement profond de nos habitudes de société. Sans ça, c'est pas la peine de renaturer des jardins, il va falloir absolument qu'on passe à une vitesse nettement supérieure.
Je résume ce que tu as dit. Tout d'abord, arrêter de polluer, de surproduire et de gaspiller, ça c'est bien clair. Et maintenant, tu vas nous dire les 5 grandes pistes, quoi.
Alors évidemment, d'abord, il va falloir qu'on protège ce qui existe, ce qui fonctionne encore. C'est-à-dire que là, on est dans des processus de compensation qui, on pourra y revenir, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur de la dégradation des habitats. Donc il est temps aujourd'hui de, pas mettre sous cloche, mais en tout cas de protéger et de protéger durablement les espaces qui fonctionnent. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas le droit d'y pénétrer. Ça veut dire qu'on limite ou qu'on arrête l'exploitation des ressources dans ces espaces-là pour que la vie sauvage puisse se maintenir de façon durable. Évidemment, il va falloir que ces habitats soient connectés. Donc souvent, ils ont été déconnectés, c'est ce qu'on a appelé le morcellement des habitats, donc les reconnecter pour qu'ils aient une durabilité biologique. Mais ça veut dire aussi rediversifier ces habitats. On l'a évoqué, là, on prend un petit peu l'inverse de toutes les causes du mal qu'on a évoqué, la disparition de certains habitats, l'uniformisation des milieux, l'aplanissement des jardins, fait qu'on a perdu tout un tas de ressources et de micro-habitats sans lesquels la faune sauvage ne peut pas se maintenir. Si on veut que ça dure, il va falloir qu'on mette en place des plans de gestion et qu'ils soient pérennisés, hein, dans une collectivité ou dans un habitat collectif pour pas qu'au prochain changement de majorité, toutes les choses soient remises en place et que les petites avancées qu'on a pu faire soient démontées parce qu'on a une autre lubie qui nous passe par la tête. Et finalement, le plus simple, c'est juste de leur foutre la paix, quoi. Leur laisser un peu de temps et un peu d'espace pour souffler et pour vivre. Donc ça veut dire partager les ressources dans l'espace et dans le temps.
Oui, donc je résume ce que tu as dit en une phrase. Il va falloir apprendre à partager le territoire et les ressources avec le reste du vivant.
Je pense que c'est vraiment le point majeur. Et ça, bah, effectivement, on va pouvoir le voir au travers de tous les espaces de nature sauvage, résiduelle qu'il y a dans les espaces urbanisés, que ce soit les jardins ou la pleine ville.
Hugues, dans cet épisode, on va parler de ce que tout un chacun peut faire, ce que chacun de nous peut faire, notamment dans son jardin ou dans des parcelles qu'il possède ou qu'il gère. Et peut-être il faut commencer par le commencement. Tu vas d'abord nous parler évidemment des arbres. Pourquoi les arbres sont si importants finalement ?
Eh bien déjà parce que c'est la plus grosse biomasse disponible sur Terre, hein, les végétaux et essentiellement les arbres qui représentent 82% de la biomasse terrestre. Il reste 13% pour les bactéries, 2,5% pour les champignons, 0,37% pour les animaux. Donc en termes de biomasse à l'échelle de la planète, ce sont les plantes qui dominent largement, largement. Et donc les plantes vont fournir cette quantité de matière organique qui va pénétrer dans le sol, qui va stocker du carbone, qui va stocker de l'humidité. Et donc évidemment, couper des arbres, c'est se priver d'une source extrêmement importante de gestion de l'environnement et du climat, mais aussi d'attractivité, de sédentarisation de la faune sauvage, puisque c'est là-dedans qu'elle va trouver des refuges, trouver des espaces de nidification ou des zones pour s'accoupler. Donc voilà, on parle tout d'abord de maintenir l'existant, puisque les arbres vont améliorer l'esthétique, l'attractivité, éventuellement la valeur foncière, si on regarde ça d'un point de vue anthropocentré. Mais ça va aussi, comme on l'a évoqué, maintenir, augmenter la qualité de vie, la santé physique, bien entendu, par la filtration des particules, par l'atténuation du son, etc. Mais aussi la santé morale et psychique, puisque de la quantité de nature et la qualité de nature qu'on croise dépend notre santé morale. Bien évidemment, on a parlé des effets sur le climat, et ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est les effets sur la biodiversité qui sont les plus prégnants. À côté de ça, bien entendu, c'est toujours agréable de voir un arbre fleurir, changer de couleur de feuilles, etc., etc.
D'accord. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut impliquer, y compris les enfants, enfin, qu'il faut qu'on s'y mette tous pour planter des bosquets entiers.
Il faut tous qu'on s'y mette, effectivement, puisque c'est un travail d'utilité publique dans lequel on peut impliquer toutes les strates de la société pour protéger, pour renaturer, pour reconstituer cette fameuse mosaïque d'habitat. C'est-à-dire, encore une fois, protéger ce qui existe et ce qui fonctionne. Donc ça commence par ne plus couper les grands arbres, ne plus détruire les zones humides, mais au contraire planter massivement et en groupe, parce que les arbres ne filent pas de façon solitaire, mais sont grégaires, ça s'appelle des forêts, les groupes d'arbres, reconstituer des zones humides et diversifier ces habitats pour reconstituer ces mosaïques d'habitats. C'est-à-dire, encore une fois, des boisements, des zones humides, des zones herbacées, des prairies, des talus, des zones humides, des espaces de nidification, des pierriers, bref, tout un tas de matériaux, d'espaces d'accueil, d'espaces de nidification qu'on a eu tendance à nettoyer, on a eu tendance à aplanir, à faire propre, et qui sont vraiment une perte de matière conséquente pour la nature.
Hugues, ok, on comprend l'importance des arbres. Pourquoi tu as voulu qu'on commence par ça précisément ?
Eh bien parce que ce sont les organismes les plus importants en termes de régulation du climat, d'atténuation de l'embrasement climatique et d'attractivité et de sédentarisation de la faune sauvage. Et notamment, on distingue quatre grands rôles, dont trois grands rôles naturels. Un rôle mécanique, hein, les arbres, les arbustes, quand ils sont groupés, puisque je vous répète, les arbres ne vivent pas de façon solitaire, on va avoir un effet brise-vent extrêmement intéressant. Donc brise-vent contre l'averse des céréales, sur la protection du bétail, mais aussi sur la qualité de vie dans un jardin ou dans un espace urbain.
Je précise juste ce que tu appelles l'averse des céréales, ça veut dire que quand il y a trop de vent, des fois ça fait se coucher, il y a une espèce de trou dans les champs de blé, c'est de ça que tu parles.
Complètement, et comme on a des machines qui récoltent et qu'on ne les relève pas à la main, ce n'est pas récoltable une fois que c'est tombé.
Ouais.
Donc c'est un problème.
Ok, donc est-ce que tu as fini de nous énoncer les différents rôles ?
Non, c'est le rôle mécanique, ça c'était le premier. Il y a un rôle hydrique qui est là, qui est majeur dans un contexte d'embrasement climatique et d'assèchement des milieux. C'est particulièrement important de se rendre compte que les arbres, contrairement à ce qu'on a pu dire, ils assèchent le milieu, pas du tout. Les arbres d'eau, effectivement, comme les saules et les peupliers, ne se privent pas de prélever l'eau aux alentours, mais en restituent de grandes parties en brumisation, alors que les arbres à feuilles caduques, eux, vont plutôt faciliter la pénétration de l'eau dans le sol, notamment grâce à leurs racines. Les arbres, en fait, relient l'eau du ciel à l'eau qui a sous terre dans les nappes phréatiques. Donc voilà les deux rôles mécaniques et hydriques principaux. Évidemment, le troisième rôle, c'est le rôle biologique qu'on a déjà évoqué en termes d'accueil et de sédentarisation de la faune sauvage. Et il reste un quatrième rôle qui est lié à notre vision du monde, c'est dans la diversité et la beauté du paysage, ce rôle esthétique.
Hugues, on va mettre les mains non pas dans le cambouis, mais dans la terre. Explique-nous comment on plante un arbre, tout simplement.
Alors, on peut planter des arbres, c'est très facile et ça coûte pas cher puisqu'il suffit d'aller voir un propriétaire qui a une haie ou qui a une forêt et de prélever facilement des bébés arbres au pied de ces massifs-là pour les transplanter le plus proche possible, ce qui marchera le mieux.
Avec l'accord du dit propriétaire.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voir le propriétaire. Mais cela dit, on peut tout à fait laisser des arbres germer tout seuls. Et d'ailleurs, où est-ce que les arbres germent tout seuls ? Ils germent aux abords d'une forêt, en lisière de forêt. Pourquoi ? parce que les arbres germent dans des milieux riches en carbone. Alors là, je suis en train de vous parler d'un gros mot, mais je vais vous raconter en fait la terre, comment elle se produit, le terreau. C'est de la matière organique carbonée et azotée, avec plein d'autres minéraux évidemment, qui se transforme en une terre. Et selon la qualité, le niveau d'azote ou de carbone, on va avoir une terre plus forestière ou une terre plus prairiale. Quand on est en lisière de forêt ou en lisière de haie, chaque année, les arbres et les arbustes perdent des quantités astronomiques de feuilles et de brindilles, de feuilles mortes et de brindilles. Et donc, je distingue le carbone de l'azote. Ce qui est vert, humide, mou et qui pue quand on en fait des tas, c'est de l'azote. L'herbe coupée, l'herbe fraîche, les épluchures, l'ortie, l'urine, voilà, tout ça, c'est riche en azote. Tout ce qui est sec, gris, marron, noir et cassant, c'est du carbone. Le carton, la paille, l'écorce, le bois broyé, les racines, voilà. Donc il y a un taux de carbone élevé. Quand on réunit de la matière organique carbonée et azotée, ça fabrique de la terre. Ok. Les arbres germent dans un sol enrichi en matière carbonée, donc un sol qui a reçu beaucoup de feuilles mortes et de brindilles. C'est pour ça que les arbres germent en lisière de forêt ou de haie, puisqu'ils sont nourris par les parents qui déposent tout un tas de matière organique. D'ailleurs, vous avez tous remarqué, quand on regarde ces fameux bocages, que quand on installe une barrière dans un champ, il y a des arbres qui germent au pied de la barrière. Et quand on pose la question, souvent on a du mal à trouver la réponse. Pourquoi ? Bah parce que c'est qu'on fauche pas, parce que les animaux ne broutent pas. Non, non, pas du tout. Pourquoi est-ce qu'ils ont germé au pied de la barrière et pas à l'intérieur ou à l'extérieur du champ ? Eh bien pour cette même raison-là, qu'à l'automne, qu'est-ce qui vole ? Pas les feuilles vertes, pas les brindilles vertes, mais ils volent des éléments de carbone morts, des feuilles mortes, des petites brindilles, qui s'accumulent le long de la barrière, puisque ça fait un effet barrière, elles tapent contre la barrière et elles tombent au pied de la barrière. Donc au pied d'une barrière, c'est significativement plus riche en carbone. Donc les arbres, dont les graines sont déposées par les oiseaux qui se déplacent et qui se posent sur les piquets, les arbres vont germer au pied de la barrière. Quand on a compris ce postulat, en fait, plutôt que de planter les arbres dans une prairie comme on a l'habitude de le faire, c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que planter des arbres dans une prairie, c'est exactement pareil que si on va habiter dans une maison dont seules les fondations ont été creusées. Et les gens vont nous dire « Non mais t'inquiète pas, je vais construire les murs et le toit, mais t'inquiète pas. Bon, ça va être un peu chiant les premiers mois, mais t'inquiète pas, tu vas bien t'en sortir. » C'est exactement ce qu'on fait avec les arbres quand on les plante dans une prairie. Alors que les arbres devraient être plantés dans un sol forestier. Et donc comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un sol forestier ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour fabriquer la maison avant d'y faire rentrer les arbres ? Eh bien, c'est pas compliqué. On dépose de la matière organique, notamment chargée en carbone, donc ce qui est dur, sec, gris, marron, cassant, au sol, sur une épaisseur de 20 à 30 cm pendant au moins 6 à 8 mois. Et donc c'est au mois de mars, avril, mai, qu'on va déposer cette matière, là où, au mois de octobre, novembre, décembre, on va y planter des arbres. Parce qu'une fois que la faune, la flore, va dégrader cette matière, va la faire pénétrer dans le sol, c'est ce qu'on appelle la bioturbation, elle va enrichir le sol en cette matière organique carbonée, ce qui va stocker de l'eau, ce qui va stocker du carbone, et ce qui va permettre aux arbres de germer, d'être nourris, et de maintenir une humidité qui leur permet de grandir. Donc le meilleur moyen, ça n'est pas de planter des arbres, c'est de déposer du bois au sol. Donc c'est de récupérer toute cette matière et de la déposer en tas pour qu'elle facilite la germination des arbres. Donc on peut prendre le processus à l'inverse, préparer en amont et donc avoir une résilience nettement supérieure dans l'installation des ligneux. D'ailleurs, il y a des techniques de haies sèches qu'on appelle les headbench où on dépose du matériel comme ça carboné et on laisse les oiseaux venir y déposer et les arbres sortir de façon tout à fait spontanée.
Hugues, tu as dit que où est-ce qu'on pouvait les trouver, là, aux lisières de forêt, etc. Mais concrètement, moi, par exemple, si je veux planter mes arbres, où est-ce que je les trouve ?
Alors, si tu n'as pas accès à un terrain et que personne ne peut t'offrir des bébés arbustes, bah, on peut d'abord tout à fait récolter, glaner des graines. Hein. C'est encore plus efficace parce qu'un arbre qu'on n'aura jamais transplanté n'aura pas sa racine craquée, déchirée lors de la transplantation et bien plus efficace en termes de résilience. Mais si on doit acheter, bah, il existe évidemment des professionnels qui produisent ça. Donc, c'est les pépiniéristes. Sauf que chez la plupart des pépiniéristes, on va avoir à faire à des plantes exotiques, à des cultivars et pas forcément à des plantes adaptées au coin. Et même si c'est les mêmes espèces, elles ont parfois été produites à l'autre bout de l'Europe ou même en Asie. Donc il existe une marque collective qui est pilotée par l'Office français de la biodiversité et qui s'appelle Végétal Local et qui permet de trouver à proximité de chez soi, puisque la France a été coupée en 11 régions biogéographiques, des végétaux dont les graines ont été prélevées dans l'environnement proche et ont été mis en culture pour respecter justement l'origine génétique, l'adaptation au climat, l'adaptation au sol et à la faune locale. Donc voilà, trouvez ce label végétal local qui est en train de se développer si vous ne pouvez pas aller prélever des végétaux directement sur le terrain.
J'ai l'impression de faire la pub, mais c'est pour la bonne cause. Donc c'est végétal-du6local.fr. C'est bien tiré du 6, hein, celui du milieu.
C'est ça.
Mmh. Ouais. Végétal-local.fr. Voilà, c'est là qu'on pourra trouver des arbres d'ici qui sont adaptés à nos milieux. Tu as titillé ma curiosité. Là, tu as dit que la France était découpée en 11 régions biogéographiques. Tu peux nous les nommer et nous les dire vite fait ?
Ben, elles ne correspondent pas tout à fait aux régions administratives, mais grosso modo, il y a une partie de la Normandie avec la Bretagne jusqu'au Poitou. Il y a l'Aquitaine très très large puisqu'elle pénètre...
Mais tu peux nous les qualifier vite fait ? Enfin, en gros, c'est quoi ? Il fait chaud, fait froid, enfin, c'est humide, enfin, tu vois ?
Ah, alors non, bah oui, c'est tout ça combiné, puisque ouais. Sont séparés, bah alors les Alpes, qui sont des espaces montagneux plutôt frais, il y a le bassin Rhône-Saône, il y a la zone nord-est, il y a le massif central. En fait, c'est des régions qui ont une cohérence biologique et géographique.
Ouais.
Et donc, forcément, c'est pas systématiquement calqué sur les régions administratives.
Mais j'entends bien. Donc là, j'ai la belle carte de France sous les yeux, mais je voulais juste que chacun puisse se situer. Donc moi, par exemple, je viens de Lorraine. Donc là, c'est toute cette région bleue. Donc en gros, c'est quoi les caractéristiques de cette biorégion ?
Je ne peux pas te les donner. Il faudrait voir avec végétal local. Non, je ne peux pas te donner les caractéristiques de chaque région. En tout cas, c'est la zone nord-est qui inclut les Vosges, l'Alsace, la Lorraine au moins.
Ouais,
mais non, je ne peux pas te donner...
Imagine que c'est très vert. Enfin, pour le coup, c'est de là que je viens. Donc, je vois bien, c'est ma Lorraine et tout. Pour le coup, les Pyrénées, c'est très clair. Il y a une petite bande. Bah, c'est les Pyrénées, donc on voit bien que c'est les montagnes. Tu as parlé des Alpes tout à l'heure. Ensuite, il y a tout ce qui est, on va dire... La côte qu'on voit plutôt sec, Garrigues et compagnie.
La Provence qui remonte sur la vallée du Rhône jusqu'à pratiquement Valence.
Ouais. Voilà, il y a tout ce qui est Aquitaine, tout ce qui est au bord de l'océan. Ok, on comprend que c'est des régions biogéographiques. D'accord, Hugues, c'est bien compris toutes ces histoires d'arbres. Alors là, on a parlé que ce qu'on peut faire tout à chacun, à chaque citoyen, mais évidemment, dans le cas des paysans, ça tombe bien, il y en a de plus en plus qui sont en train de le faire. Il faut refaire du bocage, il faut refaire des linéaires de haies.
Alors c'est primordial, et puis c'est des surfaces qui sont beaucoup plus grandes. Hein. Même si, mis bout à bout, les haies de jardins et de résidences représentent quelques millions de kilomètres, hein, c'est déjà tout à fait important, on est sur des espaces encore plus grands s'agissant des espaces agricoles. Et là, malheureusement, depuis 50, 60 ans, on a incité, on a même accompagné techniquement, voire financièrement, les agriculteurs à couper les arbres, à couper les haies, à aplanir les milieux, à détruire les zones humides, et c'est bien l'inverse qu'il faut faire. Mais ils n'ont ni les moyens, ni le temps, ni les moyens financiers, ni le temps de le faire. Donc c'est bien à la société elle-même de remettre les mains dans l'accompagnement de l'agriculture et notamment de financer la renaturation de ces espaces. Aujourd'hui, on plante des milliers de kilomètres, 10, 11 000 kilomètres de haies par an. Donc vous voyez que pour reconstituer 2 millions de kilomètres, il nous faut quelques siècles, quoi, hein, on n'est pas encore gagné. Mais à côté de ça, on détruit encore plus de haies qu'on coupe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore une fois, toutes les bonnes actions qui sont mises en place ne sont pas à la hauteur de la vitesse de dégradation actuelle, alors qu'il va falloir accélérer et qu'on a une planète à réparer. Donc c'est pour ça qu'il est temps de faire le bilan, d'arrêter la destruction massive des espaces naturels et de les restituer de façon aussi massive, notamment par l'accompagnement de l'agriculture, et ça passe inévitablement par l'augmentation du prix des denrées alimentaires.
C'est bien compris. C'est fou, il y a deux jeunes pilles là, qui sont en train de batifoler autour de nous. Elles n'arrêtent pas de... Je ne sais pas si les auditoristes les entendent, elles n'arrêtent pas de jacasser autour de nous. Merci pour ces précisions. Hugues, on a fini cet épisode qui concernait, en gros, qu'on pourrait titrer presque « Planter des arbres ». Je te retrouve très vite pour un autre épisode où on va se pencher sur ce qu'on peut faire concernant tout ce qui est prairie. En gros, c'est un peu par strate, finalement, ce dont on parle avec toi. Là tu as parlé des arbres et des arbustes et des haies. Et maintenant, on va rester au ras des pâquerettes, si j'ose dire. On va enchaîner au ras des pâquerettes sur tout ce qui est prairie, tout ce qui est fleurs, etc. Ce que chacun peut faire dans son jardin ou dans les espaces naturels qu'il gère. Merci pour toutes tes lumières. Hugues, je te retrouve très vite pour la suite et la fin. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
Salut Marc.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?